Le journal Sébastien Legenny. Bonjour Sébastien.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, les nouveaux tarifs de la SNCF. Nouvelle carte de réduction, nouvelle pénalité aussi en cas d'annulation. On fait le point sur les avantages et les inconvénients. C'est un décompte macabre que tient un collectif de lutte contre les violences conjugales, celui des féminicides. Plus de 50 femmes sont mortes en France depuis le 1er janvier dernier, tuées a priori par leur conjoint. Reportage à suivre. L'autre grand titre ce matin, c'est la nouvelle grève des fonctionnaires, aujourd'hui dans tout le pays. Dans l'actualité également, un sommet européen, aujourd'hui en Roumanie. La victoire sur le fil de Tottenham en demi-finale de la Ligue des Champions, 3-2 contre l'Ajax d'Amsterdam. Et puis, on parlera aussi du procès d'un couple de gilets jaunes accusés d'avoir volé des objets du Fouquet's en mars dernier à Paris. Et de la presse française qui va bénéficier d'une vraie bouffée d'oxygène avec l'arrivée d'une nouvelle loi à l'Assemblée.
Au micro d'Alexandra Ben Saïd, dans 20 minutes à 7h50, Gilles Boyer, il est candidat sur la liste Renaissance de la République en marche aux élections européennes.
France Inter.
Branle-bas de combat à la SNCF, Sébastien, qui lance ce matin une nouvelle grille tarifaire.
Elle se veut plus simple et plus avantageuse selon la direction. La SNCF qui entend ainsi fidéliser ses clients dans la perspective de l'ouverture à la concurrence en 2021. Concrètement, cela concerne et les TGV et les intercités. Fini les tarifs loisirs et pro, on simplifie. On crée trois catégories, seconde, première et business première. Tous les billets, même les prems qui seront préservés, seront échangeables et remboursable, mais avec des pénalités, on le verra, parfois plus lourdes. Et enfin, le plus gros changement, on y vient, concerne les cartes de réduction. Tout est remis à plat, les bons et les mauvais côtés, avec Adrien Toffolet.
Une carte unique à 49 euros, qu'on soit jeune, senior ou famille, des réductions de 30% pour les adultes et de 60% pour les enfants. La SNCF joue la fidélisation de sa clientèle et la séduction de ceux qui prennent souvent le train. Une nouvelle gamme tarifaire saluée par les associations des usagers des transports, qui pointent tout de même deux régressions importantes. D'abord, qu'elle s'applique à une offre de train réduite, selon Bruno Gazo, le président de la FNOT.
Sont exclus de ces tarifications-là les Ouigo, qui bénéficient d'une tarification spécifique, les trains intercités, c'est une ligne sur 24, qui ont été transférés aux régions, dont je rappelle qu'elles ont la liberté tarifaire. Donc on risque d'avoir une grande confusion entre les cartes qui seront utilisables sur le réseau TGV et puis les interfaces en région, puisque les TGV, évidemment, vont en région et souvent sont couplés ou permettent aux usagers des TER de monter dans les TGV. Donc là, on va avoir quelques difficultés.
Autre problème sur les conditions de remboursement et d'échange des billets. Auparavant, c'était gratuit jusqu'à la veille du départ pour les détenteurs de cartes. La FNOT regrette un durcissement des conditions.
Vous paierez jusqu'à 5 euros jusqu'à 30 jours avant et 15 euros 2 jours avant. Donc si vous êtes 2 ou 3 dans une famille, vous avez tout de suite des sommes conséquentes pour changer un billet, alors que le prix de votre billet va déjà augmenter de façon très conséquente puisque vous l'achetez la veille de votre départ.
Et voilà qui devrait refroidir les actuels 3 millions de détenteurs de cartes de réduction.
Adrien Toffolet, la SNCF s'engage de façon générale à n'augmenter aucun de ses prix. Il sera toujours moins cher d'acheter ses billets à l'avance plutôt qu'au dernier moment. Précisons enfin qu'à partir du mois de juin, la SNCF va commencer à vendre des billets de train dans les bureaux de tabac dans 4 régions test.
Il est 7h34, la lutte contre les inégalités femmes-hommes au menu d'un G7 spécial aujourd'hui à Paris.
La secrétaire d'État chargée de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, va en effet réunir pendant 2 jours autour d'elle ses 6 homologues du G7 dans la perspective du G7 de Biarritz cet été. Au menu de cette forme de diplomatie féministe, les violences faites aux femmes, les mutilations génitales ou l'accès à l'éducation. Une réunion qui intervient alors qu'un collectif publie ces derniers jours des chiffres accablants sur les violences conjugales en France. 51 femmes sont mortes depuis le début de l'année sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Les 2 derniers drames recensés font froid dans le dos, Béatrice Duguet.
Martine Lespinasse, 64 ans, artiste peintre, a été retrouvée par ses enfants, poignardée à 40 reprises dans l'appartement de son ex-compagnon en Gironde. Le corps de Marie-Alice Dibon, 53 ans, diplômée en pharmacie industrielle, a lui été découvert dénudé dans une valise flottant sur l'Oise il y a une quinzaine de jours. Dans les deux cas, les anciens partenaires sont recherchés par les enquêteurs. 51 vies perdues, c'est une tous les 2 jours et demi. Un gâchis qui a des signes avant-coureurs pour Françoise Brié, directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes.
On entend souvent crime passionnel, la jalousie, tout d'un coup. L'histoire des violences, elle existe depuis souvent bien des années, avec une aggravation des situations de violence qui va crescendo. Et donc ces situations de violence, elles étaient très très souvent préexistantes aux féminicides.
Un tiers des féminicides sont commis au moment des séparations, d'où la nécessaire vigilance au moment des ruptures. pour les sécuriser.
Être victime de violence, c'est extrêmement lourd avec un parcours complexe. À chaque démarche qui sont à accomplir, à la fois les démarches judiciaires, mais aussi les questions d'emploi, les questions de retrouver un logement, un hébergement, il peut y avoir des professionnels à leur côté pour les soutenir dans ces démarches.
National d'écoute pour les femmes victimes de violences.
200 appels par jour au 3919, 90% pour des violences conjugales.
En cas d'urgence, composez le 17 ou le 112.
Le 3919, joignable 7 jours sur 7 de 9h à 22h en semaine. Béatrice Duguet a fait le reportage. Les fonctionnaires à nouveau dans la rue aujourd'hui. Les 9 principales centrales syndicales appellent à se rassembler dans toute la France pour protester contre la réforme du gouvernement qui doit être discutée à partir de lundi à l'Assemblée. Une réforme très critiquée qui prévoit notamment le recrutement de plus de contractuels et la possibilité de la rémunération au mérite. Mais au-delà de ces revendications, la question aujourd'hui pour les syndicats, c'est de pouvoir battre le pavé en toute sécurité. Contrairement au 1er mai dernier où certains leaders syndicaux ont dû quitter les cortèges, cette fois pas question de se faire voler son défilé. La sécurité avant tout, explique Christian Grolier, secrétaire général de FO Fonction Publique.
Bien sûr que c'est un souci pour nous. Nous, on veut manifester et aller au bout de la manifestation. Ça n'a pas été possible le 1er mai, donc nous on veut pas d'amalgame. On veut savoir qui a donné la consigne, par exemple, d'envoyer des bombes lacrymogènes sur les manifestants et du cortège principal et du service d'ordre au 1er mai. Nous on a des camarades dans toutes les organisations syndicales qui sont en charge de ce qu'on appelle le service d'ordre syndical, souvent des camarades bénévoles, adhérents bien sûr, mais leur but à eux c'est quoi? C'est de dire, je vais m'assurer que le cortège prenne le bon chemin. Je fais attention qu'il n'y ait pas d'écart entre les lignes, comme on dit, de manière à ce que tout le monde soit cohérent et qu'on arrive au bout pour pas qu'il y ait d'infiltration de véhicules, de particuliers. Notre rôle, c'est ça. Ceux qui doivent assurer la sécurité des salariés, des fonctionnaires, en tout cas de ceux qui manifestent dans la rue, ce sont les forces de l'ordre. Donc aujourd'hui, on espère que les forces de l'ordre, le 9 mai, seront bien du côté des militants syndicaux, c'est-à-dire des usagers qui manifestent de manière pacifique, en déclarant la manifestation, en ayant l'accord de la préfecture de police de Paris sur le parcours, qu'après, il y ait des fauteurs de troubles, comme on dit, qu'il y ait quelques personnes qui soient là pour casser à la police de faire son boulot.
Christian Grolier au micro de Delphine Simon. Autre front contre le gouvernement, celui de l'opposition parlementaire. Vent debout contre la privatisation d'ADP. On se souvient que députés de droite et de gauche se sont unis pour lancer la première procédure de référendum d'initiative partagée afin peut-être de consulter la population un jour sur cette question délicate de la privatisation des aéroports de Paris. Mais il faut pour cela d'abord l'aval du Conseil constitutionnel, décision attendue aujourd'hui. Ils étaient reparti du Fouquet's saccagé avec quelques souvenirs dans les poches. Un couple de gilets jaunes doit comparaître aujourd'hui pour vol devant le tribunal correctionnel de Paris, accusé d'avoir pillé le célèbre restaurant le 16 mars dernier, lors d'un défilé très violent sur les Champs-Élysées. Originaire d'Indre-et-Loire, cette aide-soignante et ce conducteur de train ont été interpellés en mars près de Tours et ils affirment eux n'avoir rien dérobé du tout. Les précisions de David Di Giacomo.
4 fourchettes et un tabouret. Voilà le souvenir ramené du Fouquet's par ce couple de gilets jaunes. Un souvenir et pas un butin. Ambre et Franck assurent qu'on leur a donné ces objets. Sur sa page Facebook, l'aide-soignante postera une photo du tabouret. Les enquêteurs pourront alors remonter sa trace et l'interpeller chez elle avec son compagnon. Le 23 mars dernier, ils passent en comparution immédiate, mais leur avocat soulève des nullités de procédure. Le couple ressort libre, sans être jugé. La jeune femme livre alors sa version des faits.
On a débarqué devant le Fouquet's qui était ravagé, dégradé, c'est un petit mot. On a parlé un petit peu avec le vigile qui nous a pas empêché de rentrer dedans. On a fait un selfie à l'intérieur et les gens ont commencé à réclamer des petites cuillères, des fourchettes et tout ça. Et il les a mis à disposition des gens.
Vous êtes reparti avec quoi alors ?
Avec 4 fourchettes et je les regardais avec le sourire en lui demandant si je pouvais prendre un tabouret pour la blague et le souvenir du Fouquet's. C'était le symbole et en plus demander et puis donner avec autorisation. Donc c'est beaucoup de déploiement d'énergie pour les forces de l'ordre parce que je trouve qu'elles ont quand même autre chose à faire que ça.
L'avocat du couple fustige les moyens disproportionnés que la police a mis en place, comme la géolocalisation en temps réel du portable de la jeune femme, des moyens dignes d'un trafic international de stupéfiants, ironise Ariel Halimi, pour retrouver un tabouret et découvrir.
David Di Giacomo, les Restos du Cœur, eux appellent à un plan européen de lutte contre la pauvreté. L'association fondée par Coluche s'inquiète d'une possible baisse des fonds consacrés à l'aide alimentaire. 16 millions d'Européens bénéficient aujourd'hui du Fonds européen d'assistance aux plus démunis.
Il est 7h40, on parle encore d'Europe pour terminer avec la déclinaison dans notre droit, le droit français, d'une directive qui a beaucoup fait polémique.
La directive sur ce qu'on appelle les les droits voisins. La loi visant à la transposer en France sera soumise aujourd'hui au vote des députés. Les droits voisins Kesako, c'est en fait l'arsenal législatif qui va permettre à la presse de mettre fin au pillage de ses contenus par les géants du net. Alexandra Hakoun.
Aujourd'hui, chaque fois qu'un article de presse arrive sur Internet, qui ramasse la totalité du produit publicitaire lié à cette mise en ligne? Google News et Facebook. Une situation inadmissible, estime Patrick Mignola. Il est le président du groupe Modem à l'Assemblée et le rapporteur de la proposition de loi sur les droits voisins. Des droits qui, sans régler tous ces problèmes, devraient offrir à la presse une vraie bouffée d'oxygène.
Grâce à Internet, on a pu doubler le lectorat de la presse. En revanche, en doublant son lectorat, elle a perdu 70% de ses ressources publicitaires parce qu'elles sont parties côté Internet. Donc, on ne peut jamais être certain que demain, ça assurera l'équilibre économique de la presse. Ce dont on est sûr, c'est que ça apportera toujours plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est rien.
Par ruissellement, le texte prévoit aussi une rémunération des journalistes appropriée et équitable, mais individuelle à chaque entreprise. Hélas, cela risque d'être compliqué, regrette Olivier Dallage du Syndicat National des Journalistes.
Dans certaines entreprises, ça se passera bien parce qu'il y a une habitude de négociation. Dans d'autres, ce sera plus compliqué. Pas nécessairement d'ailleurs parce que les éditeurs ne voudront pas partager, mais parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ce genre de négociation. Et puis d'autres éditeurs, c'est clair, n'ont pas non plus très envie de partager avec les journalistes. C'est pour ça que nous préférerions un système passant par une société de gestion collective.
En commission, le texte a reçu l'approbation unanime des députés. Son adoption, aujourd'hui, ne devrait pas créer de polémique.
Alexandra Hakoun, un dernier mot avec cette étude. Et si, contrairement à une idée répandue, l'épidémie mondiale d'obésité provenait davantage des campagnes que du mode de vie urbain? C'est ce qu'avance une vaste enquête publiée hier dans Nature. Le monde rural désormais gagné par le surpoids en cause d'une alimentation moins équilibrée qu'avant et une baisse de l'activité physique dans les campagnes.
Merci Sébastien Logeni.